BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends dans l'émission qui veut vous rendre bien au travail. Au sommaire, dans l'entretien des RH, le séminaire d'entreprise, comment est-ce qu'il évolue, notamment depuis la crise sanitaire. Il a retrouvé une place plus stratégique dans un certain nombre de boîtes. On en parle avec le cofondateur de Marilou, Mehdi Ennasseri. Un grand thème de société pour notre sujet sur la table aujourd'hui, avec la levée du tabou autour des maladies comme l'endométriose. Nous en parlerons avec un DRH qui s'est saisi de la question du congé menstruel et avec Raphaël Rémy-Leleu, membre du Conseil de Paris. Et puis en fin d'émission, dans le Labo RH, on va réinventer avec notre invité l'entretien annuel. Voilà le programme, merci d'être avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Mehdi Ennasseri, merci beaucoup d'être avec nous dans Happy Boulot. Vous êtes cofondateur de Marilou, entreprise lilloise qui facilite la location des biens publics. Vous êtes une espèce de Airbnb finalement, des grands espaces.
Tout à fait, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, tout à fait, Marilou est un Airbnb des grands espaces, plus précisément des lieux publics.
Alors quel type de lieu on va retrouver chez Marilou? Pour être clair, vous avez une plateforme, de la même manière que Airbnb a son site internet ou son application, sur laquelle on va retrouver tout un tas de logements, en tout cas d'espaces. Typiquement, je vais sur votre site, qu'est-ce que je trouve?
Alors, nous, la grande différence avec Airbnb, c'est qu'on s'identifie plus comme un logiciel que comme une plateforme. C'est-à-dire qu'on vient équiper les établissements publics avec notre logiciel, leur permettant de gérer leur activité de location. Donc, on va être de la salle des fêtes traditionnelle que vous connaissez toutes, que vous connaissez tous et toutes dans votre petite commune, jusqu'aux grands monuments du patrimoine, en passant par les musées, les opéras, les théâtres, les jardins. C'est hyper diversifié.
Et donc, vous êtes en contact avec quoi, les collectivités, c'est ça? Ce sont elles, en fait, qui louent ces espaces à travers votre solution?
Tout à fait. On est parti d'un constat assez simple. C'est que, d'un côté, nous, Français, n'avions pas accès si facilement que ça à ces lieux publics, les salles des fêtes que l'on connaît dans notre commune. Il y en a plus de 200 000 en France. Et de l'autre, du côté des gestionnaires au sein des établissements publics, eh bien, c'est compliqué pour eux de gérer ces espaces. C'est pas leur cœur de métier. Et donc, on a développé une solution pour eux qui leur permet de faire ça très simplement.
Donc l'avantage aussi pour les collectivités, les propriétaires qui vont louer ces espaces à travers votre plateforme, c'est qu'en fait, ils vous délèguent la gestion.
Alors, nous, on n'agit pas à leur place. C'est-à-dire que nous, on va simplifier tout un tas de procédures. Par exemple, le paiement va pouvoir se faire directement depuis la plateforme. Ils vont, ne plus gérer tous les contrats papier. Tout ça se fait électroniquement. Et surtout, ils vont abandonner Excel. On avait beaucoup de communes qui travaillaient encore sur Excel ou sur des classeurs. Aujourd'hui, elles passent sur Marilou. Et donc, ça leur permet vraiment d'avoir une gestion presque professionnelle de leur patrimoine et donc de générer des recettes complémentaires.
Mehdi Ennasseri, quels sont les lieux les plus demandés sur votre plateforme?
Alors, les traditionnelles salles des fêtes, j'ai envie de dire, fonctionnent toujours très bien, parce que c'est un espace auquel on est attaché. On y a fait le baptême de la petite fille, on y a fait des anniversaires de famille, des réceptions, et donc c'est un espace qui fonctionne très très bien, même dans les petites communes. Et on a des espaces plus originaux. On a à Roubaix, par exemple, des ateliers d'artistes, les ateliers jouets. On a également le département du Nord qui gère 7 de ces musées via le logiciel Marilou. Donc, on a des espaces incroyables comme la maison natale de Charles de Gaulle. On a l'abbaye de Vaucelles. On a le Muse Vert, des musées incroyables sur cette solution. Donc, c'est assez diversifié, à vrai dire.
Avec un certain nombre de lieux insolites, j'invite nos auditeurs, téléspectateurs à aller voir aussi sur votre site Marilou pour les découvrir. Des lieux qui, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre émission, Mehdi, peuvent servir au séminaire. On sait que les entreprises, de plus en plus, avec, à la suite du Covid, parce que ça a modifié beaucoup le travail, notamment avec le télétravail et les difficultés de se rencontrer. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui remettent en place des séminaires pour recréer de la cohésion entre les salariés dans les équipes. Et vous êtes là aussi avec cette solution que vous apportez typiquement pour ce type d'usage.
Exactement, merci de le préciser. Marie-Lou, bien évidemment, on a des lieux qui sont à destination des particuliers, mais pas que, on a aussi beaucoup de lieux qui sont ouverts aux entreprises. Et donc, oui, on constate aujourd'hui sur Marie-Lou, plus de la moitié des locations qui se font sont des locations à destination d'entreprises. Et pour les entreprises, passer par une solution comme Marie-Lou, c'est aussi un engagement social et sociétal, puisque... in fine, en organisant des événements dans des lieux publics, elle participe aussi au développement économique local.
Et on voit très bien, à travers d'ailleurs les chiffres qui apparaissent à la télévision, pour ceux qui nous suivent en télé sur BFM Business, ce chiffre impressionnant, c'est 83% l'estimation des dépenses dans l'événementiel en entreprise en Europe en 2023, donc par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un retour là de l'événementiel. Vous le ressentez aussi, vous, dans votre vie d'entreprise ?
Tout à fait, on le constate et on a un retour de l'événementiel d'entreprise, mais in fine plus comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises recherchent des lieux atypiques, recherchent des lieux parfois en dehors des villes, plutôt des séminaires au vert et surtout des séminaires d'expérience. C'est pour ça que voilà, nous, on a développé toute une rubrique Marie-Lou Expérience sur notre logiciel qui permet donc au musée de proposer, en plus de l'organisation du séminaire, une visite, une présentation privilégiée.
Vous-même, chez Marie-Lou, Mehdi Ennasseri, vous organisez ces types de séminaires en équipe. Vous profitez de votre solution pour aussi pouvoir participer à ce type d'événement ?
Alors nous, on le fait en interne. Vis-à-vis des entreprises, nous, on n'est pas là pour organiser les événements. On a des event managers ou des responsables des locations au sein des établissements qui le font déjà très bien. Donc nous, on n'intervient pas pour mettre en place les choses. On s'occupe simplement de simplifier tout ce processus de réservation et surtout de faire connaître ces espaces, puisqu'in fine, ce qu'on a constaté, c'est que ces espaces, ils étaient assez peu visibles. Ils sont référencés nulle part, personne ne les connaît. In fine, ce que permet Marie-Lou, c'est de faire émerger une nouvelle offre sur ce marché.
Ouais. Et il y a de la demande, c'est ce qu'on voit avec les chiffres qui nous ont été présentés. Pour terminer quand même un point, parce que le séminaire, c'est un investissement aussi pour l'employeur, hein. Ça se fait sur le temps de travail ou alors c'est compté sur des heures supplémentaires. Dans quelle période on va vous faire le plus souvent de demandes de location pour typiquement des séminaires ?
Alors l'avantage, c'est que disposant d'une vraie diversité de lieux. En fait, nous, on reçoit des demandes, on reçoit des demandes vraiment toute l'année. Alors, bien évidemment, on a des périodes où on a un peu plus de demandes. Par exemple, voilà, au début du printemps, à la rentrée, ce sont des périodes qui sont importantes, ou juste après les fêtes. Voilà, c'est vraiment les périodes qui jalonnent l'année où voilà, on constate une évolution du nombre de demandes. Mais étant positionné pas uniquement sur le séminaire, oui, on arrive à compenser avec d'autres natures d'événements.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mehdi Ennasseri, cofondateur de Marie-Lou.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Et c'est un sujet de société que les entreprises prennent à leur charge, celui du congé menstruel adopté en Espagne déjà, c'était mi-février, et décidé au cas par cas aujourd'hui dans les entreprises en France. Carrefour a par exemple récemment mis en place 12 jours de congé pour ses salariés. Jeanne Spicarolène, vous avez étudié des chiffres sur la question, études qui font état de difficultés rencontrées à ce sujet par les femmes en entreprise.
Oui, elles sont nombreuses à souffrir de douleurs menstruelles. Une femme sur deux, selon cette étude IFOP qui date d'octobre 2022. Et elles sont encore plus nombreuses à dire qu'elles rencontrent des difficultés dans leur travail à cause de leurs règles. Deux tiers d'entre elles. 35% des femmes salariées estiment que les règles impactent négativement leur travail. Et 37% disent que la gêne des règles est sous-estimée au travail.
Et Jeanne, alors ces femmes en entreprise, elles sont pour ou contre le congé menstruel ?
Deux tiers d'entre elles y sont favorables, mais pas seulement. Elles sont tout autant à dire qu'elles pourraient y avoir recours et à penser que cela rendrait une entreprise plus attractive. Mais elles ont une crainte, que ce soit un frein à leur embauche, pour 82% d'entre elles.
Merci beaucoup, Jeanne Spicarolène. On va tout de suite plus loin avec nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour, Raphaël Rémy-Leleu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans Happy Boulot. Vous êtes conseillère de Paris, Europe Écologie Les Verts. Et face à vous, avec vous, puisque ça va pas vraiment être une confrontation, mais vous êtes aussi avec nous, Xavier Molinier. Bienvenue.
Merci.
Merci d'être là, DRH de Good Days. Une des rares entreprises françaises à proposer le congé menstruel. C'est venu comment d'abord?
Alors c'est venu d'une réflexion sur la plus générale sur la souffrance. On est parti en fait du congé pour fausse couche, hein, qui était un premier constat, hein, de souffrance qui était bizarre, hein, dans la législation française, qu'avant la 22e semaine de grossesse, une fausse couche est reconnue comme un rien, en fait, alors qu'à partir de la 22e semaine, une fausse couche est considérée comme une maternité. Donc, ce qui est assez paradoxal, puisque dans les deux cas, il n'y a pas d'enfant. Hein, d'un côté, il ne s'est rien passé, il y a la perte d'un enfant. Et dans le deuxième cas, il ne s'est rien passé, mais c'est une maternité sans enfant. Donc, c'est assez paradoxal et c'est une souffrance psychologique, potentiellement physique. Et dans notre entreprise, ce qu'on souhaite, c'est que les salariés, quels qu'ils soient, se réalisent professionnellement. Et on ne voulait pas que cette souffrance soit un frein à la réalisation et soit un empêchement à se réaliser professionnellement. En creusant autour du congé pour fausse couche, on s'est dit, mais il y a aussi effectivement l'endométriose, cette maladie qui est difficilement identifiable, qu'il faut prendre aussi en considération.
Raphaël Rémy-Leleu, vous avez face à vous quand même, j'ai envie de dire presque un pionnier, hein, parce qu'en France, on en est encore loin de ces entreprises qui se lancent dans ce type de démarche.
Absolument, j'ai face à moi un pionnier, et merci beaucoup. C'est un sujet, à la fois, en fait, si on en revient au sujet principal, le problème, c'est le tabou autour des règles. Et le tabou autour de la santé des femmes, le manque de recherche, le manque de considération, le stigmate, parfois, qui nous est imposé. Ça fonctionne pour les règles, pour l'endométriose, pour les fausses couches. Et il y a un début de prise de conscience, notamment porté grâce au travail des associations féministes depuis des années, autour de tous ces sujets. Et on est en train de se dire que le droit du travail, mais aussi notre protection sociale, peut évoluer pour mieux encadrer, pour mieux protéger les femmes.
Xavier Molinier, qu'est-ce qui fait que chez vous, dans votre entreprise Good Days, ce sont des sujets que vous avez envie de traiter, vous avez envie d'apporter des réponses? Pourquoi ces sujets-là spécifiquement? Parce que oui, vous le faites, mais on le disait, dans plein d'autres entreprises, on n'a même pas encore ce type de réflexion.
C'est exact. Non, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, la problématique, c'est vraiment de la souffrance.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes sensible à ce sujet-là?
C'est qu'il y a
des entreprises qui sont peut-être moins sensibles à la souffrance.
Il y a deux aspects à la souffrance. Premièrement, c'est pas humain d'exiger de quelqu'un qui souffre qu'il vienne travailler. Mmh. Hein, donc il y a une base d'humanité fondamentale. Après, pour une entreprise, de faire venir quelqu'un travailler alors qu'il est en souffrance, c'est contre-productif. Hein, à la fois à l'instant T, mais dans la durée, en termes de reconnaissance, de fidélisation et de participation à la vie d'entreprise.
Mais alors comment concrètement ça va fonctionner? Parce que jusqu'à maintenant, quand on est en souffrance, bien sûr, on peut tout à fait aller voir son médecin généraliste, il nous fait un arrêt de travail sur 1, 2, 3 jours et on ne vient pas travailler. Peu importe quelle est la raison, l'employeur n'a pas forcément à le savoir. Qu'est-ce qui fait qu'avec cette initiative que vous prenez, comment ça va fonctionner très concrètement?
Cette barrière qu'on a voulu lever, parce que la problématique des règles douloureuses, c'est régulier, c'est tous les mois. C'est une maladie qui se diagnostique très tard aujourd'hui, hein, donc au moment où les femmes justement commencent à travailler ou commencent leurs études. Donc il y a cette régularité qui est un frein, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous les mois aller voir son médecin traitant pour obtenir un arrêt maladie. Donc nous, on a voulu construire quelque chose qui soit sur la confiance, qui soit assis sur la confiance et qui fasse que la femme qui est en souffrance puisse faire une déclaration simple au DRH et à son manager. Oui.
Raphaël Rémy-Leleu, l'idée derrière tout ça, c'est ça aussi, c'est de permettre à ces femmes qui sont dans ces situations difficiles tous les mois ou très régulièrement de ne pas avoir cette journée de carence qu'on a parfois quand on a un arrêt de travail.
Alors, il y a la problématique de la carence, en effet, du jour de carence, et nous on pense que la journée de carence en réalité est un problème beaucoup plus large pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Mais en effet, concernant les règles douloureuses, déjà, il faut rappeler que c'est un grand slogan des associations de prévention de l'endométriose. Les règles, c'est normal, mais pas la douleur. Parce qu'on a une grosse carence en termes de médecine sur la prise en compte de la douleur des femmes, sur la prévention de l'endométriose, sur la recherche, et même cette capacité qu'ont les médecins généralistes à prêter attention à ces douleurs-là. Donc ça aide aussi, en mettant en place un congé menstruel, à faire une meilleure médecine médecine préventive. Mmh. Et ensuite, pour les femmes, c'est à la fois lever un obstacle psychologique, un obstacle en termes de dialogue social, et puis un obstacle financier, mmh. puisque pour toutes les femmes qui ont leurs règles, prendre en compte, prendre en charge chaque mois et les protections périodiques, et les médicaments, et la visite chez le médecin, ça commence à faire beaucoup.
Vous êtes conseillère de Paris, Europe Écologie Les Verts. C'est à une généralisation de ces initiatives que vous vous appelez ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la généralisation des congés menstruels, le gouvernement y appelle lui-même. C'est passé assez inaperçu, mais c'était dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, justement. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, entame un large dialogue social avec les entreprises, avec la protection sociale, avec les associations féministes ou de patients, par exemple, pour aider à encadrer, à gagner ce nouveau droit qui devrait par ailleurs permettre aussi aux femmes d'être mieux accompagnées dans le parcours médical.
Alors, accompagner les femmes, comment est-ce qu'on accompagne aussi les entreprises, Xavier Moline ? De quoi vous avez besoin, vous, pour mettre en place tout ce processus-là de fonctionnement ?
Alors, sincèrement, on est Good Days, on est dans la tech, on est une petite entreprise. Oui. Tous les salariés sont cadres et je dirais la problématique a été plus facile à adresser, je pense, que dans l'industrie. Je pense que dans un monde plus, plus rude d'un point de vue professionnel, je ne sais pas si on aurait pu faire la même chose, construire sur la confiance, maintenir
la rémunération. Est-ce que vous êtes combien chez Good
Days ? On est une centaine de personnes.
Très bien.
Voilà, dans la tech, donc on est quand même dans un secteur assez privilégié. Mmh. Il ne faut pas oublier que la tech, ça représente peut-être 20-25% des salariés en France, mais qu'à côté de ça, il y a une grosse masse des travailleurs qui sont plutôt en usine, dans la production, en restauration, dans l'hôtellerie, et que la problématique n'est pas forcément la même.
On ne va pas pouvoir forcément l'adapter à toutes les entreprises. Ça peut être plus compliqué en fonction de si on est effectivement dans le secteur tertiaire, dans le secteur secondaire, si on est une entreprise, une petite entreprise, une grosse entreprise.
En fait,
il faut regarder au cas par cas, ou est-ce qu'on peut se dire tout le monde doit franchir le pas ?
Non, je pense pas que ça soit une question de cas par cas. Je pense que bien entendu, il y aura de l'adaptation et c'est ça le dialogue social finalement. Mais on en revient presque, vous savez, au débat qu'on avait lorsque les femmes ont commencé à travailler. On s'est demandé si les femmes pourraient travailler dans toutes les branches professionnelles. Aujourd'hui, c'est le cas. Pas majoritairement, il y a encore des gros problèmes de mixité dans certaines branches professionnelles, mais les femmes sont présentes dans l'ensemble de la société, sont présentes dans l'ensemble du monde du travail, donc on doit pouvoir s'adapter à toutes les situations que nous rencontrons.
Alors, typiquement, chez vous, Xavier Molinier, comment vous faites lorsqu'une femme va s'arrêter de travailler ? C'est quoi, généralement ? C'est 2 jours ?
Alors, c'est entre 1 et 2 jours.
Entre 1 et 2 jours.
Voilà, c'est pas forcément systématique.
Ouais. Mais vous savez que, potentiellement, une fois par mois, cette personne-là va être absente. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Qu'est-ce que ça change dans votre processus de travail ?
Ah bah, ça change rien. Ça change rien. Je pense que le principe est accepté par tout le monde. Voilà,
Mais il faut bien que le travail que faisait cette personne d'ordinaire soit reporté sur quelqu'un d'autre, non ?
Alors, il peut être reporté, effectivement. Après, ce que les managers comprennent très bien aussi, c'est que quelqu'un qui va revenir satisfait d'avoir pu se reposer et en bonne disposition physique et mentale va être efficace, alors que la personne qui viendrait travailler dans la douleur serait moins efficace. Et il y aurait forcément aussi un effet de bord d'un point de vue
image.
Et si je peux me permettre d'ajouter, finalement, la question de l'équilibre du travail, de la charge de travail, de son remplacement n'est pas différente que pour un congé maladie ou que pour un congé enfant malade.
Tout à fait.
Et ça mérite d'être aussi mieux partagé, mieux discuté dans les entreprises.
Mais donc on met des moyens supplémentaires pour pouvoir remplacer ces personnes ou pas nécessairement ?
Si jamais l'arrêt devait se prolonger sur plusieurs semaines, oui, on aurait recours à l'intérim ou à d'autres solutions de remplacement. Là, on parle d'une ou deux journées par mois, et encore, on a le recul d'un an d'expérience, et on s'est rendu compte que les femmes qui ont chez nous ont eu recours à ce congé n'ont pas fait systématiquement, et pas systématiquement 2 jours. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive à se mettre en place de manière assez simple.
La ville de Paris aussi veut montrer l'exemple. Anne Hidalgo a demandé à ce que le congé menstruel soit mis en place pour les employés municipaux.
Alors exactement, en fait, le groupe écologiste au Conseil de Paris, nous avons déposé un vœu, notamment avec mes collègues Alice Coffin, Chloé Sagaspe, pour essayer d'avoir cette expérimentation et qu'une grande collectivité territoriale comme Paris puisse expérimenter. C'est déjà le cas à Saint-Ouen, c'est en réflexion à Romainville, parce qu'on se dit que les collectivités territoriales qui emploient beaucoup de femmes comme Paris pourraient montrer l'exemple et peuvent aussi essayer de dénouer certaines problématiques avec la discussion avec nos employés, nos syndicats, et voir comment tout ça peut s'organiser. organisé.
On va terminer sur un point qui était abordé en tout début d'émission par Jeanne Spicarolène, qui mettait en avant un chiffre sur l'inquiétude autour des discriminations à l'embauche. Le fait d'être une femme et d'avoir peut-être un jour droit automatiquement à ce congé menstruel, on voit dans les chiffres que ça, beaucoup sont inquiètes, plus de la moitié, par le fait que peut-être un employeur va préférer, encore une fois, un homme à une femme pour cette raison-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bien sûr, les femmes sont inquiètes d'être discriminées dans le cadre du travail ou de l'embauche, mais parce que les femmes sont déjà discriminées. En termes de salaire, en termes d'embauche, les chiffres en moyenne prouvent que les deux tiers des femmes sur le marché du travail connaissent une forme de discrimination. Donc on ne peut pas se retenir de conquérir de nouveaux droits parce que la discrimination existe. Au contraire, il faut qu'on soit très exigeant et exigeante et qu'on en arrête avec les discriminations.
Xavier Molinier, le mot de la fin. Là-dessus.
Bon, je pense que c'est une question d'usage, ça va venir naturellement à partir du moment où on a déjà l'index égalité homme-femme qui existe, donc on pousse vers plus d'égalité. Je pense que petit à petit, s'il y a une législation qui fait en sorte que ça devient obligatoire, ça va rentrer dans les mœurs et ça se fera très facilement.
Merci à vous deux d'être venus échanger sur BFM Business sur ce sujet. Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts, Xavier Molinier, DRH de Good Days.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et focus dans les minutes qui nous restent sur les entretiens annuels réinventés, entre autres par notre invité qui nous rejoint. Bonjour Anaïs Georgelin.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la fondatrice de So Many Ways, solution de ce qu'on appelle le job crafting. Faut nous en dire plus.
Oui, tout à fait. Nous, chez So Many Ways, on accompagne les organisations à résoudre leurs problématiques de turnover et de désengagement grâce au job crafting.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de refaçonner son travail pour un collaborateur pour y trouver lui-même plus de sens.
C'est-à-dire, quand on est déjà dans l'entreprise, on fait appel à vous, c'est ça ? En tout cas, aux solutions que vous proposez pour redonner du sens ou retrouver du sens dans
son travail. Effectivement, on essaie de résoudre ce problème de panier percé. Vous voyez, on met beaucoup d'efforts pour recruter et après, une fois qu'on est à l'intérieur, il se passe rien. Et souvent, on pense que la solution, quand on a un collaborateur, vous avez peut-être vécu ça, c'est de partir voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Finalement, nous, on dit, non, on va vous apprendre à faire reverdir l'herbe là où vous vous situez.
Et donc, ce sont les employeurs qui font appel à vous ?
Tout à fait. Ce sont les entreprises qui font appel à nous pour déployer finalement un grand changement de mentalité dans l'entreprise.
Et donc, vous êtes appelé par les entreprises, sans dévoiler tous les détails, mais quelles sont typiquement les solutions que vous allez apporter pour répondre à ces problèmes-là de fuite des talents?
Concrètement, on a une solution digitale qui permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de faire leur bilan d'alignement professionnel. Donc, quel est mon rapport au travail ? Quels sont mes vrais besoins à moi ? Dans quelle mesure ils sont satisfaits ? Et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce que je peux faire qui est à ma portée pour le résoudre ? Donc ça, c'est une solution digitale. Et à côté, on accompagne, on forme, on s'insère dans les rituels managériaux et RH, parce que le collaborateur ne peut pas tout faire tout seul.
Bien sûr. Et on voit à travers ces chiffres que nous apporte notamment le cabinet Deloitte que le sens au travail, c'est prioritaire. 87% des salariés disent que le sens au travail, c'est important. Autrement dit, il faut réussir aussi quand on est une entreprise, quand on est un employeur, à adapter le travail à ses salariés, parfois à le faire évoluer aussi, parce qu'un salarié, il va pas vouloir forcément rester 10 ans sur les mêmes missions, il a envie d'évoluer en interne. Ça, vous allez apporter des solutions là-dessus.
Oui, c'est ça. On parle de sens au travail, effectivement, c'est un besoin croissant. Et le problème, c'est que le sens au travail, c'est assez abstrait. Et nous, on essaie de rendre ça très concret, parce que ce qui va faire sens au travail pour vous, c'est pas la même chose que pour quelqu'un d'autre. Et en plus, ça change dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs d'identifier ce qui va faire sens pour lui, et de voir comment il peut agir en fonction de tout ce qui existe dans l'entreprise, parce qu'il y a déjà les solutions pour que ce soit mieux pour lui.
Et vous apportez donc des solutions supplémentaires. Et avec le cabinet Grant Thornton, vous avez signé un partenariat. Et là, pour vous concentrer sur l'entretien annuel.
Oui, on essaie ensemble de réinventer l'entretien annuel.
Pourquoi ? Parce que c'est un peu une tare, aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. C'est toujours le moment un peu difficile que personne n'a envie de faire.
C'est ça. Alors, pour paraphraser la DRH de Grant Thornton qui disait, dans l'entretien annuel, aujourd'hui, on parle beaucoup du passé, à peine du présent et surtout pas du futur. Alors, quand je dis entretien annuel, il y a aussi l'entretien professionnel. Bref, on pourrait, si nous avions plus de
mais
temps...
Mais c'est le grand rendez-vous de l'année, généralement en tout début d'année, où on sait qu'on va pouvoir aussi faire le point sur ce qui a été fait et sur les objectifs, c'est ça
C'est ça. Et souvent, on concentre ces grands rendez-vous-là uniquement sur la performance. Et on parle un peu trop de performance et peut-être pas assez de sens. Et c'est ça qu'on vient réinjecter avec Grant Thornton.
De quelle manière ?
Eh bien, en mettant à disposition dans le temps de préparation de cet entretien notre plateforme, ce qui fait que le collaborateur arrive en s'étant posé des bonnes questions, en identifiant là où il a envie d'ajuster et même avec des pistes de solutions concrètes. Et après, ça s'arrête pas là parce que l'autre grand problème de l'entretien, c'est qu'on n'arrive pas à préparer. Donc ça, on le résout, comme je viens de vous le dire. Mais après, on n'en fait rien. Donc là, on va vraiment accompagner aussi avec notre solution digitale le suivi du passage à l'action du côté du collaborateur qui a pris des engagements, mais aussi du côté managérial et ou RH qui prend également des engagements.
Et est-ce que ça prend déjà dans les entreprises ou est-ce que ça va prendre ?
Ça prend là où on est déjà. Après, le but du jeu, c'est de rentrer partout, de faire la révolution des entretiens annuels et professionnels dans toutes les entreprises.
Et vous avez des retours positifs sur les solutions que vous avez déjà mis à disposition ?
Oui, on a des retours positifs à la fois du point de vue du collaborateur qui arrive à mieux se connaître, mieux comprendre, mieux savoir ce qui existe, au niveau du RH qui peut mieux anticiper les départs, qui peut mieux agir avant qu'il soit trop tard, qui peut mieux comprendre ses collaborateurs.
Bah donc c'est bénéf pour tout le monde, c'est du gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant.
Merci beaucoup pour votre témoignage, merci d'être venu nous présenter cette solution. Anaïs Georgelin, fondatrice de So Many Ways. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre toutes les semaines, tous les week-ends dans Happy Boulot. Cette émission, c'est la vôtre. Elle est à retrouver en replay, en podcast. Si un sujet vous intéresse en particulier, vous nous écrivez bien sûr une seule adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être les plus heureux possible au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.